suis Bernard Tepper, je suis co-responsable du secteur santé-protection sociale de l'UFAL et puis également co-responsable du nouveau réseau UFAL Santé International. Alors hier, Germain Velasquez a conclu que nous ne pouvions pas faire confiance à l'OMS. Garance UFAM a de son côté montré une montée de révolte au sein de l'Assemblée mondiale de la santé il y a une quinzaine de jours. L'initiative prise par nos deux organisations, Mémoire des luttes et UFAL Santé International, arrive à point nommé. D'autant plus qu'il n'y a pas de mouvement social sur le médicament, mais que cette préoccupation entre dans les études et les actions du mouvement social et syndical qui s'est mobilisé sur la santé en général. Le processus de marchandisation et de privatisation des profits et de socialisation des pertes engagé sur l'ensemble du secteur socialisé, et donc dans la protection sociale en général et dans la santé en particulier, s'est faite depuis le consensus de Washington en 1979. Et ce processus de marchandisation est tel que nous devons travailler sur des stratégies d'abord de résistance, puis de marche vers une politique alternative. Notre idée est la suivante. Les actions institutionnelles sont importantes, on en a beaucoup parlé. Elles sont nécessaires, mais elles sont insuffisantes. Les méthodes de lobbying peuvent aussi être utilisées par le mouvement social et les acteurs politiques, mais on le voit bien dans les discussions que l'on a eues notamment avec les deux députés européens qui ont parlé à cette tribune, que si on en reste là, le rapport des forces ne sera pas, je dirais, du côté de l'émancipation. Et pour comprendre cette difficulté, c'est qu'il faut bien montrer l'importance de l'attaque sur la protection sociale en général. Pour la France, c'est 31,3% du PIB. Près du tiers des richesses est dévolu à la protection sociale. Et si on prend la santé, c'est maintenant un peu plus de 11% du PIB. Ce qui fait plus de dépenses de santé pour un pays comme la France, plus de 220 milliards d'euros. La protection sociale, 31,3%, c'est le double, c'est presque le double du budget de l'État, tout ministère confondu. Et le fait que nous soyons en crise économique profonde fait que l'attaque, elle est redoublée, tout simplement parce que les dirigeants du monde ont théorisé le fait que lorsqu'on est en période de crise, que les citoyens et leurs familles vont faire plus d'efforts pour se soigner et envoyer leurs enfants à l'école que pour acheter des biens de première consommation. Et que donc, le capitalisme lui-même a besoin, je dirais, de privatiser le plus rapidement possible ce secteur. Alors, en sachant, premièrement, que c'est le premier budget humain, deuxièmement, qu'on est en période de crise, et que pour gagner de l'argent, eh ben, c'est plus facile d'en gagner dans la santé, dans l'école ou dans les services publics privatisés que lorsque on vend d'autres produits. Alors, dans ce cadre-là, si on ne peut plus faire confiance à l'OMS, ben, il y a quand même toute une série de gens qui sont intéressés par la définition de la santé de l'OMS. Alors, je vais vous la donner, la définition de la santé de l'OMS. La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie et d'infirmité. Cette définition provient du préambule de la Constitution de l'OMS, telle qu'adoptée par la Conférence internationale sur la santé à New York en 1946 et signée le 22 juillet 1946 par les représentants de 61 États et entrée en vigueur le 7 avril 1948. La santé est un état complet de bien-être physique, mental et social. Bien évidemment, cette définition, même si elle est toujours la définition de la santé de l'OMS, elle n'est plus appliquée par l'OMS. Ça a été dit pendant toute la journée, hier, ce matin, les conflits d'intérêts, les lobbyings des firmes multinationales de l'assurance et des firmes pharmaceutiques sont tels que, bien évidemment, le bien-être physique, mental et social passe au second plan par rapport aux intérêts de la concurrence et du commerce. Dans cet univers impitoyable, la seule solution réside, bien évidemment sur le long terme, dans la prise en compte que la protection sociale en général et la santé en particulier doit devenir une priorité du mouvement social et des acteurs politiques, ce qui aujourd'hui est loin d'être le cas. La protection sociale, je rappelle, dans tous les pays développés, est la première préoccupation des citoyens. Si on compte toute la protection sociale, et ça passe devant l'emploi lorsqu'on met toute la protection sociale, c'est-à-dire que les quatre branches de la Sécu et les trois branches hors Sécu de la protection sociale. Et donc, pour arriver à modifier ce rapport des forces, il faut une insurrection des consciences. Il faut le surgissement des citoyens et du salariat dans une mobilisation forte pour y parvenir. Le mouvement altermondialiste a tenté de répondre à cette question avec l'instauration des forums sociaux locaux, régionaux et mondiaux. Malheureusement, à aucun moment ces forums ont mis la santé et la protection sociale dans leurs priorités. La globalisation des luttes, en s'appuyant d'abord sur ce qui est prioritaire pour les couches populaires, majoritaires dans le monde, et majoritaire en France, n'est pas l'idée la plus répandue, y compris chez les militants. Cela a poussé le mouvement social de la santé sur le plan international à essayer de s'organiser au moment des forums sociaux mondiaux, mais de façon séparée du forum social mondial. C'est ainsi que dans les trois jours qui ont précédé le Forum social mondial de Porto Alegre en janvier 2005 s'est tenue une réunion à Porto Alegre portant création d'un réseau mondial pour le droit à la santé qui s'est transformé en Forum social mondial de la santé. Une équipe d'animation est née autour du Brésilien Armando da Negri. Nous étions deux Européens dans l'équipe d'animation, un Italien responsable des COBAS, et moi-même pour le réseau ATTAC. Mais il faut bien reconnaître que suite à cette opération-là, l'intensité de la mobilisation sociale latino-américaine sur les problèmes de santé, contre les inégalités sociales de santé, a trouvé un débouché politique dans l'irruption de régimes politiques qui ont mis la protection sociale dans leurs priorités. Le Brésil, le Venezuela, la Bolivie, l'Équateur, ce qui n'a pas été le cas ailleurs. De plus, le gouvernement du Brésil a décidé de subventionner des initiatives post-altermondialistes en invitant les gouvernements et représentants de syndicats et d'associations non gouvernementales du monde entier pour se réunir début décembre prochain, du 1er au 5 décembre 2010, pour la première conférence mondiale sur le développement des systèmes universels de sécurité sociale. Bien évidemment, UFAL Santé International, People's Health Movement seront présents à ce rendez-vous. Il est à noter que le gouvernement du Brésil s'est impliqué financièrement dans, cette proposition et que le fait que le gouvernement du Brésil mettre la main dans la poche, d'ailleurs fait débat au sein des mouvements sociaux mondiaux. Donc c'est un processus qui est en train de continuer sur le plan international, mais de façon séparée sur la santé. En France, il y a eu un processus singulier. D'abord, il y a eu la création, de deux collectifs. L'un qui s'appelait le collectif contre les franchises, pour la sécurité sociale solidaire et pour l'accès aux soins pour tous, qui a eu son moment de gloire quand il a mobilisé le 27 septembre 2007 40 000 personnes en France, dont 2500 au gymnase Japy à Paris. Il y a eu un deuxième collectif qui s'est créé, qui est le collectif des services publics, et un troisième collectif qui est le collectif de défense des hôpitaux et maternités de proximité. Et à côté de ces trois collectifs, s'est créé un processus singulier qui s'appelait les États généraux de la santé et de l'assurance maladie, EXAM, qui eurent lieu de 2004 jusqu'au 22 octobre 2006, avec une vingtaine d'organisations politiques, syndicales, associatives, mutualistes, et qui ont travaillé pendant 2 ans à la création d'un manifeste alternatif aux politiques néolibérales en matière de santé et d'assurance maladie. Vous trouverez ce manifeste sur plusieurs sites, dont celui d'Attac et de l'UFAL. Et d'ailleurs, c'est un manifeste assez global sur des pistes alternatives discutées par cette vingtaine d'organisations. Mais le fait que ni le Parti socialiste, ni aucune des grandes confédérations syndicales françaises n'était présente, même si certaines structures CGT l'étaient, je dirais que ce processus s'est arrêté fin 2006, chacune des organisations reprenant, je dirais, son fonctionnement habituel. Détailler les points forts de ce manifeste, je vais le faire rapidement pour montrer, je dirais, son caractère. La première idée de ce manifeste, c'était de faire le constat que l'ensemble des systèmes de santé et de sécurité sociale ont été construits à un moment où les maladies infectieuses étaient l'ennemi principal, et qu'aujourd'hui nous sommes, je dirais, dans une période où sont plutôt, notamment dans les pays du Nord, les maladies chroniques, diabète, cancer, sida, maladies cardiovasculaires, etc. Et que là, il est absolument nécessaire, on voit bien que la partie curative n'est pas suffisante. Et qu'il faut intégrer les différentes préventions à l'intérieur du système de santé et d'organiser leur financement. Et que de ce point de vue, nous avions théorisé ça en disant qu'il fallait passer d'une logique de soins à une logique de santé, de façon à intégrer l'ensemble des politiques de prévention. Le deuxième élément de ce manifeste, c'était d'aller vers un remboursement sécu à 100%, c'est-à-dire d'éviter la concurrence libre et non faussée, c'est-à-dire faussée, entre la sécu et les complémentaires santé, qui bien évidemment favorisent les grandes firmes multinationales de l'assurance et les instituts de prévoyance des amis de M. Guillaume Sarkozy. Troisième élément, c'est bien évidemment d'agir sur un financement solidaire qui ne pouvait fonctionner que si on revenait en arrière sur la déformation de la valeur ajoutée, c'est-à-dire sur une nouvelle répartition des richesses. Je rappelle que pour un pays comme la France, la déformation de la valeur ajoutée entre salaire et profit est en 25 ans de 9,3 points de PIB, ce qui fait, par rapport au PIB de 2000 milliards d'euros aujourd'hui, plus de 180 milliards d'euros par an de déformation du partage de la valeur ajoutée. Le quatrième élément, qui était un élément central, c'était de revenir sur la position révolutionnaire du Conseil national de la Résistance, d'avoir pris comme idée que la santé et la protection sociale étaient bien trop importantes pour qu'elles soient gérées soit par le privé, soit par l'État, et qu'à ce moment-là, elle était déclarée gérée par les représentants élus des assurés sociaux avec des élections à la Sécu. Je rappelle que les dernières élections ont eu lieu en 1983 sous le gouvernement Mauroy qu'elles ont été annulées par le gouvernement Rocard et supprimées de la loi par le gouvernement Juppé. Le cinquième élément de ce manifeste, c'est la recherche pharmaceutique. C'est-à-dire qu'on a tiré l'idée, parce qu'on avait tous lu le livre de Philippe Pignard sur le grand secret de l'industrie pharmaceutique, et qui montrait justement la décroissance de la découverte des nouvelles molécules dans les 30 dernières années, qu'il fallait revenir sur une recherche pharmaceutique publique financée sur fonds publics. De façon que cette recherche ne soit pas organisée vers des populations solvables et rentables, et que ces recherches devraient s'effectuer principalement par rapport aux besoins sociaux des gens, par exemple sur les maladies négligées. Et que donc, de ce point de vue-là, c'était sur la base de ces 5 points que nous avions fait un manifeste où il y avait bien sûr bien d'autres points sur la démographie médicale et plein d'autres choses de ce genre. Il est à noter en France, sur le médicament, une revue qui a une importance, c'est la revue Prescrire, qui s'est constituée pour étudier chaque médicament en dehors des conflits d'intérêts très fréquents dans les commissions d'autorisation de mise sur le marché. C'est un point d'appui considérable pour le mouvement social et syndical de la santé, ou plutôt ça devrait l'être. À noter également que People's Health Movement, qui est la plus importante ONG mondiale en termes de mobilisation populaire, est surtout implantée dans l'ensemble du sous-continent indien, y compris le Bangladesh et le Pakistan, avec quelques implantations en Afrique et en Amérique latine. En dehors des mouvements sociaux sur la santé en Amérique latine, et à un degré moindre dans le sous-continent indien, rien de tel a germé dans le reste du monde. Dans les pays d'Amérique latine, s'est mis en place un post-altermondialisme où les mouvements sociaux ont pris corps avec un nouveau processus politique basé sur une société mobilisée, y compris électoralement, et où la santé joue un rôle très important. On aurait pu en parler avec le représentant de l'ambassade de l'Équateur. En Europe, la forte déconnexion du mouvement syndical avec les mouvements sociaux et la faible implication des militants politiques dans les mouvements sociaux et syndicaux, sauf pour distribuer des tracts dans les manifestations syndicales, n'a pas permis que prenne corps, disons, un processus équivalent. Et que, de ce point de vue-là, ce que je viens de dire, plus le fait que le mouvement altermondialiste central attaque, je dirais, à diminuer son influence, a laissé, je dirais, une place béante dans le dispositif français. Quelques pistes alternatives générales qui, je dirais, que l'on retrouve dans tous les discours des mouvements sociaux mondiaux. D'abord, continuer à déconstruire les discours néolibéraux, désenfumer pour y voir clair, comme certains disent. Mais il faut pour cela tenter des analyses fines et ne pas se contenter de dire que nos adversaires ont tort sans le démontrer, ou même pour certains utiliser le même paradigme en étant moins pire. Puis construire un discours alternatif de rupture avec la logique actuelle permettant de renouer avec une politique d'émancipation. Développer une pratique d'éducation populaire tournée vers l'action, mais en ciblant d'abord les couches populaires, très majoritaires dans le monde et majoritaires en France. Et puis, bien sûr, développer en même temps une stratégie à front large, plutôt que de donner des leçons de pureté aux grandes organisations à partir de groupuscules. Sur le plan de la santé, je pense qu'il est nécessaire de renforcer les réseaux sociaux mondiaux. Et de ce point de vue, la prochaine conférence mondiale sur le développement des systèmes universels de sécurité sociale pourrait bien évidemment avoir un intérêt majeur si cette conférence se permet d'aller plus loin que l'ancien Forum social mondial de la santé. Sur le plan de la santé particulièrement, je pense qu'il est nécessaire de reprendre les idées qu'on a entendues hier, plutôt ce matin, avec Germán Velázquez et Garance Ufam. Je pense qu'il faut que l'OMS renoue avec sa vocation historique. Il faut que l'OMS devienne un organe qui travaille en fonction des besoins des gens et sur la qualité, en fait, des médicaments d'une part et des processus médicaux d'autre part. Deuxièmement, il faut supprimer les conflits d'intérêts dans les lieux de délibération. On a bien vu tout à l'heure, avec la députée européenne du GUE, on a bien vu qu'il y a des conflits d'intérêts à l'intérieur même du Parlement européen. Bon. Et on pourrait y compris donner des noms. Voilà. Donc il faut supprimer les conflits d'intérêts. Par exemple, il est anormal que dans des commissions d'autorisation de mise sur le marché, il puisse y avoir les représentants directs des laboratoires pharmaceutiques qui disent d'une façon simplement, si vous ne donnez pas l'autorisation de mise sur le marché, nous allons débaucher 300 personnes dans l'usine Tartempion. J'ai un camarade qui dirigeait une commission AMM, et ça lui a été sorti par un membre de la commission. Voilà. Il faut bien évidemment, comme l'a dit Germán Velázquez, utiliser l'article 19 de l'OMS. C'est-à-dire que l'OMS doit être un lieu de création des traités et de faire en sorte que ces traités soient dominants par rapport aux traités définis par l'OMC. D'autre part, il faut développer la priorité de l'intérêt public par rapport aux intérêts privés. Et que de ce point de vue-là, il est absolument nécessaire, dans certains cas, de développer ce que certains appellent le néoprotectionnisme altruiste social et écologique, plutôt que de laisser le libre-échange fonctionner en fonction des seuls intérêts commerciaux. Et que bien évidemment, petit à petit, faire en sorte qu'il y ait un dispositif d'éducation populaire qui puisse faire comprendre à la population la réalité des choses. La dernière idée que je voudrais parler avant de donner la parole à Frédéric Pierru sur les médicaments pour qu'il nous en dise plus de ce point de vue, c'est l'idée suivante, c'est qu'il faut développer principalement le principe de solidarité contre le principe de charité, fût-il institutionnalisé. Ce qui a cassé en France la défense, je dirais, du mouvement social de la santé, je le dis, c'est la création de la CMU. La création de la CMU, c'est un des points de décrochage avec les couches populaires ouvriers et employés, parce que ceux qui gagnaient à l'époque plus de 3400 francs par mois et qui gagnaient en dessous du SMIC ne pouvaient plus se soigner et estimaient que de s'intéresser qu'aux plus pauvres, mais ne pas s'intéresser des couches populaires qui gagnaient plus de 3400 francs par mois, c'était un abandon des couches populaires par la gauche. Et que ce point-là, parce que bien sûr, la CMU, comme le RMI, c'est de la charité institutionnalisée. Et que face à la CMU, l'argument, la revendication républicaine universelle, c'est l'accès aux soins pour tous, et qu'il ne puisse pas avoir un accès aux soins qui soit lié à sa fortune personnelle. Il ne doit pas y avoir de renonciation de soins pour cause financière, pour des soins utiles et nécessaires. Et que donc, de ce point de vue, la charité doit être combattue pour avoir, la solidarité.